Et j'aimerais commencer ce matin en vous racontant une histoire, les enfants. Je le fais parce que je sais que vous aimez les histoires, pas vrai? Et je pense que vos parents aiment les histoires aussi. Et je me demande si vous saurez deviner de qui je parle. Je vais raconter une histoire, on va voir si vous savez de qui je parle. Alors écoutez bien, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Jacques. Jacques a 21 ans et il vit en Angleterre avec sa famille, c'est une vraie histoire. Sa famille est chrétienne et depuis son plus jeune âge, donc, Jacques a entendu parler de Jésus. Et Jacques aime Jésus parce qu'il sait, il vous dirait si vous lui demandiez, il sait que Jésus est le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui est mort pour moi, pour me pardonner mes péchés et me donner la paix avec Dieu. Et Jacques, alors, aime Jésus. Et son plus grand désir, c'est que d'autres puissent le connaître. Et voilà qu'un jour, Jacques entend parler de la Chine. Alors aujourd'hui, il y a des millions et des millions de chrétiens en Chine, mais il faut savoir qu'à l'époque de Jacques, il y en avait zéro. Zéro chrétien. La Bible n'était pas traduite en chinois. Les missionnaires qui s'y étaient rendus avaient soit été tués, soit chassés du pays. Et Jacques, en apprenant cela, était pris de pitié pour le peuple chinois. Comment seront-ils sauvés s'ils n'entendent jamais parler de Jésus? Et comment entendront-ils parler de Jésus si personne ne va le leur annoncer? Et Jacques décide alors de partir en Chine. Il a 21 ans quand il embarque sur un bateau. Il traverse les océans, il échappe aux pirates, brave les tempêtes. Et après de longs mois de trajet, il arrive enfin à destination. Mais arrivé en Chine, rien ne se passe comme prévu. Le chinois est une langue beaucoup, beaucoup plus difficile à apprendre que prévu. Et il faut de longues années à Jacques avant qu'il ne puisse commencer petit à petit à traduire l'évangile de Marc en chinois. Et malgré tous ses efforts, malgré toutes ses prières, malgré toutes ses tentatives de parler de Jésus autour de lui, rien. Aucun, il ne voit aucun converti. Et Jacques se met alors à douter. Ai-je bien fait de tout quitter pour venir ici ? Qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant? Qu'est-ce qu'il attend pour agir dans ce pays? Et alors qu'il passait par cette période de doute, Jacques est arrivé dans sa traduction de l'Évangile à Marc, chapitre 11, verset 22, où Jésus dit à ses disciples, « Ayez foi en Dieu !» Ayez foi en Dieu! Jacques traversait cette période tellement difficile de sa vie, il se sentait très découragé, se demandant même s'il ne fallait pas carrément tout abandonner pour rentrer chez lui. Et il pensait, mais c'est impossible d'avoir la foi en Dieu. Comment puis-je avoir foi en Dieu dans cette situation? Mais en revenant au texte original, il a remarqué que le verbe « avoir » signifie « s'accrocher ». Si vous avez quelque chose, c'est que vous vous y accrochez. Et bien sûr, le mot « pistis », « foi » en grec, peut aussi être traduit par « fidélité ». Et il raconte que c'est comme si un trait de lumière de l'Esprit de Dieu s'est posé sur ces trois mots de l'Évangile. Et il a compris que avoir foi en Dieu, c'est s'accrocher à la fidélité de Dieu. Accroche-toi au Dieu qui est fidèle. Et c'est ce que Jacques Hudson Taylor a fait. Il s'est accroché au Dieu qui est fidèle. Il a rappelé à son souvenir les promesses de Dieu auxquelles Dieu s'était montré fidèle au fil des siècles. Et il s'est accroché, parfois juste du bout des ongles, mais il s'est accroché au Dieu qui est fidèle. Et aujourd'hui, des millions et des millions de chrétiens en Chine peuvent lui en être reconnaissants. Vous avez déjà entendu ce nom, les enfants? Vous avez... C'était quoi le nom? Vous avez entendu? J'ai dit maman. Louise, c'était quoi? C'est ça, Jacques ou James Hudson Taylor, c'est ce célèbre missionnaire parti en Chine au 19e siècle et qui, après des années sans voir aucun fruit, a vu ses premiers convertis et puis l'évangile se répandre partout en Chine. Maintenant, si je vous raconte son histoire, c'est parce qu'elle illustre le défi que cela représente de vivre par la foi, de vivre en comptant sur Dieu quand tout autour de nous nous pousse, au contraire, à douter de ses promesses. C'est un défi que le texte d'Ésaïe que nous avons sous les yeux nous aide à relever. Ésaïe 7, qui nous incite précisément à cela. Accrochez-vous au Dieu qui est fidèle, il ne vous décevra pas. Voilà le message central de ce texte qui est destiné à nous encourager face au défi de la vie par la foi. Et c'est mon premier point. Le défi de la foi. Le défi de la foi. Le roi Akaz était face à un gros, gros défi. Mais pour vous en rendre compte, vous devez comprendre le contexte géopolitique de l'époque. Nous sommes en 735 avant Jésus-Christ, en plein choc des empires. L'Égypte et l'Assyrie sont les deux grandes superpuissances du moment, et la petite nation de Juda, dont Akaz est le roi, se trouve coincée entre elles comme entre le marteau et l'enclume. Le marteau, en l'occurrence, c'est l'Assyrie, qui est en pleine expansion. Et Juda n'est pas seul dans ce cas, les petites nations d'Israël et de Syrie sont aussi menacées. C'est pourquoi une tentative d'alliance a lieu. Nous lisons au verset 1, regardez, que Péka, roi d'Israël, s'est allié à Résin, roi de Syrie, et ces deux rois veulent maintenant qu'Akaz, roi de Juda, rejoigne leur alliance, parce qu'ils pensent qu'à trois, ils seront assez forts pour dissuader la Syrie de les attaquer. Seulement, Akaz refuse de s'allier avec eux, ce qui n'est pas, alors pas du tout, du goût de Péka et Résin, qui décident alors d'entrer en guerre, ensemble, contre Juda, pour détrôner Akaz et mettre à sa place un roi plus coopératif. Les détails de cette guerre nous sont rapportés en 2 Chroniques 28, si vous voulez aller lire, et c'était une boucherie. Les armées syro-israélites ont écrasé l'armée de Juda, tuant plus de 120 000 soldats, dont le fils du roi Akaz, emportant 200 000 habitants de Juda en captivité et pillant le pays sur leur passage. Et maintenant, l'ennemi est aux portes de Jérusalem. Pas étonnant, regardez au verset 3, au verset 2, pardon, que le roi et son peuple furent secoués par cette nouvelle comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. C'est la panique à Jérusalem, comme en témoigne le fait au verset 3, que lorsque Esaïe vient à la rencontre d'Akaz, Akaz est en train de faire quoi ? Il est en train d'inspecter les réserves en eau de Jérusalem. C'est là qu'Esaïe le rencontre, à l'extrémité du canal du réservoir supérieur, en train d'inspecter les réserves en eau, parce qu'il sait que l'ennemi est en marche, et il s'attend à un long siège. Et je vous demande alors si vous voyez dans quel état de panique Akaz se trouve. Son armée est décimée, l'ennemi ne vient pas pour faire des prisonniers, dans quelques jours, Jérusalem sera complètement assiégée, et que faire maintenant ? Tout espoir semble perdu. Mais c'est alors que Dieu lui fait une promesse au verset 3, regardez. Le Seigneur dit alors à Esaïe, « Avec ton fils Shear-Yashub, sors à la rencontre d'Akaz. » Est-ce que c'est un nom que vous auriez voulu que vos parents vous donnent, les enfants ? Shear-Yashub. Pas trop, je pense. Hein. Pourquoi est-ce que Shear-Yashub devait-il venir avec Esaïe voir le roi Akaz ? Vous avez compris ça ? Les adultes ? C'est parce que leur nom à tous les deux était porteur d'une promesse pour le roi. Savez-vous ce que leur nom signifie ? Esaïe signifie « Dieu est mon salut » et Shear-Yashub signifie « Un reste survivra ». Ainsi, en lui envoyant Esaïe et son fils, c'est comme si Dieu disait à Akaz « Fais-moi confiance, je sais que tout semble indiquer le contraire, mais je n'ai pas abandonné mon peuple, je viendrai à votre secours, Dieu est ton salut ». Et vous ne serez pas anéantis, un reste survivra. Le défi pour Akaz est donc le suivant. Fera-t-il confiance à Dieu qu'il sera fidèle à sa promesse et le délivrera, lui et son peuple, alors que toutes les apparences l'incitent à penser le contraire ? Croira-t-il Dieu sur parole ? Ou se tournera-t-il ailleurs, vers l'Égypte ou la Syrie, pour obtenir le secours ? Se confiera-t-il dans la promesse de Dieu ou dans la puissance des hommes ? Pour être délivré. C'est le défi de la foi auquel nous faisons face, nous aussi, chaque jour de notre vie, dans des situations peut-être moins dramatiques, mais néanmoins réelles. Parce que Dieu nous a fait à nous aussi plein de promesses, des promesses qu'il est facile de croire lorsque tout va bien, mais la question est, faisons-nous confiance à Dieu, qu'il sera fidèle à ses promesses, lorsque les apparences nous incitent à penser le contraire ? Quand les circonstances de la vie semblent contredire les promesses de Dieu à notre égard, croyons-nous Dieu sur parole ? Ou comme Akaz, sommes-nous tentés de chercher le secours ailleurs ? Par exemple, laissez-moi vous donner quelques exemples de ça. Par exemple, Dieu nous fait cette promesse qu'il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 10, 13. N'est-ce pas une merveilleuse promesse ? Que Dieu ne va jamais nous pousser au-delà de nos limites, que Dieu ne nous laissera jamais tomber, mais au contraire, qu'il sera toujours là avec nous dans l'épreuve pour nous aider à en sortir. Quelle promesse extraordinaire, n'est-ce pas ? Seulement, n'est-ce pas le propre de l'épreuve que, quand elle nous accable, elle nous semble juste insurmontable ? Cette promesse est facile à croire quand tout va bien, n'est-ce pas ? Mais quand tout va mal, c'est là que nous sommes tentés de penser « C'est trop, Seigneur ! Je suis plus capable de le supporter. » Le risque, si nous donnons libre cours à cette pensée, si nous oublions cette promesse que non, Dieu ne nous éprouvera jamais au-delà de nos forces, le risque est que nous commencions à douter de la bonté de Dieu, car nous pensons, mais s'il se souciait vraiment de moi, il ne permettrait pas que je sois dans cette impasse. Comment permettrait-il ça s'il m'aimait vraiment ? Et il n'y a alors plus qu'un pas qui nous éloigne encore d'abandonner complètement la foi en Dieu pour trouver du secours ailleurs. Dans la psychologie séculière, par exemple, de chercher des ressources dans la sagesse humaine des psychologues, plutôt que de compter sur Dieu dans mon épreuve pour en sortir. Autre exemple, dans un tout autre registre, Dieu nous fait cette promesse que « Moi, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Matthieu 16, 18, et qu'il bâtit son église par la proclamation de l'évangile, qui est une puissance à salut. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. N'est-ce pas là encore une merveilleuse promesse que Dieu est puissant pour sauver des hommes et des femmes et les ajouter à son Église contre laquelle même les portes de l'enfer ne peuvent rien ? Extraordinaire, n'est-ce pas ? Seulement, face à la faiblesse et à la petitesse de l'Église en Occident, nous luttons parfois pour ne pas nous décourager. Comme Akaz, retranché derrière les murs de Jérusalem, nous avons peut-être l'impression que l'Église est assiégée par toutes sortes de forces hostiles sur le point d'être rayée de la carte. Et face au peu de conversions auxquelles nous assistons dans notre pays, ne sommes-nous pas souvent aussi amenés à douter de cette promesse, au point d'entretenir l'idée que Dieu se serait trompé, que non, l'Évangile n'est pas puissant pour sauver. James Hudson Taylor luttait précisément avec ça. L'insuccès apparent de l'annonce de l'Évangile en Chine, est-ce qu'on n'est pas, nous aussi, parfois tentés d'abandonner, soit carrément, comme Hudson Taylor, qui voulait presque retourner chez lui, et d'abandonner l'annonce de l'Évangile, soit de négliger l'Évangile pour le remplacer par d'autres choses qui attireront les gens. Remplacer l'Évangile par un message édulcoré, par exemple, où il n'est question ni de jugement, ni de péché. Au lieu de croire que Dieu est encore puissant pour sauver, que son évangile est puissant. Ou dernier exemple, cette semaine-là, j'ai longtemps médité sur cette promesse du psaume 63, verset 4, où il est dit que ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie. Quelle promesse ! Dieu nous dit qu'il y a infiniment plus de joie à connaître la bonté de Dieu, de se savoir aimé par notre Père Céleste, qu'il y a de la joie dans tout ce que cette vie peut offrir. Et bien sûr, il y a des jours où l'amour de Dieu est si réel à mon cœur que j'ai aucune peine à croire cette promesse. Mais il y a d'autres jours où mon cœur est froid et Dieu me semble lointain. Et ne sommes-nous pas tentés en de telles journées de voir tout ce qui brille dans ce monde et de penser que c'est ça qui peut vraiment me combler ? Et plutôt que de trouver ma joie dans le fait de me savoir aimé par mon Père Céleste, je cherche ma joie dans des plaisirs éphémères. Est-ce que vous voyez quel défi cela représente de vivre par la foi ? Est-ce que vous connaissez le combat que cela représente parfois de vivre en comptant sur Dieu quand tout autour de nous pousse au contraire à douter de ses promesses ? Si oui, et si vous êtes chrétien, vous devriez connaître quelque chose de ce combat-là. Si oui, j'aimerais que vous voyiez deuxièmement avec moi comment vivre par la foi. C'est mon deuxième point. La vie par la foi. Dans les versets 4 à 9. Les versets 4 à 9 où nous voyons que Dieu ne se contente pas de faire une promesse à Akaz, il lui dit comment s'emparer de cette promesse par la foi. Rappelez-vous, Dieu lui envoie Esaïe et Cher Yachoub dont les noms sont porteurs de cette belle promesse que Dieu est ton salut et qu'un reste survivra. Mais le message de Dieu pour Akaz ne s'arrête pas là. Car c'est pas assez d'entendre cette promesse, encore faut-il s'en saisir. Et pour ça, Akaz est incité à faire trois choses. Dans les versets 4 à 9, il nous est dit de faire trois choses pour nous emparer des promesses de Dieu lorsque nous sommes tentés d'en douter. Il faut s'arrêter, s'élever et s'accrocher. S'arrêter d'abord. Au verset 4, Dieu envoie Ésaïe vers Akaz en lui recommandant, tu lui diras, attention, garde ton calme, n'aie pas peur et ne te laisse pas intimider. Littéralement, stop, attention, c'est stop, garde ton calme. La première chose qu'Akaz doit faire, c'est s'arrêter, ne pas céder à la panique. De toute évidence, la panique devait régner à Jérusalem à l'époque et le roi Akaz avait probablement des dizaines et des dizaines de conseillers qui lui suggéraient plein d'options possibles. Certains sans doute qui lui disaient « Mais à quoi bon s'entêter contre Péka et Resin? Nous n'avons aucune chance contre leur armée. Pourquoi ne rejoindrions-nous pas leur alliance contre la Syrie ?» Et puis d'autres à l'inverse, d'autres conseillers sans doute qui lui disaient « Mais pourquoi est-ce que nous n'appellerions pas la Syrie plutôt à l'aide ou l'Égypte ?» Bombardé par ces dizaines de voix concurrentes, il n'est pas difficile d'imaginer Akaz en pleine panique. C'est pourquoi Ésaïe lui dit « Stop, garde ton calme, de peur qu'il ne tire une mauvaise conclusion de sa situation ou qu'il ne prenne une décision hâtive. » Et c'est aussi ce que nous devons apprendre à faire, nous arrêter. Pourquoi ? Parce que comme l'explique un auteur, la plupart des doutes qu'un chrétien expérimente vis-à-vis des promesses de Dieu, la plupart des doutes ont plus à voir avec un manque de réflexion qu'avec un excès de réflexion. La plupart de nos doutes sont plus dus à un manque qu'à un excès de réflexion. S'il arrive, autrement dit, à notre foi dans les promesses de vaciller, ce n'est jamais, jamais parce que nous avons trop réfléchi et que nous ferions mieux de nous dire « arrête de réfléchir, crois seulement ». Habituellement, c'est ce que j'observe dans ma vie, le problème est que nous ne réfléchissons pas assez, en fait. Et nous tirons des conclusions hâtives sans prendre le temps de nous arrêter pour réfléchir, sans prendre le temps de faire taire les milliers de voix qui entrent en concurrence pour capter notre attention et nous mettre à l'écoute de la voix de Dieu, la seule qui compte. Je me suis rappelé cette semaine la réponse que Tim Keller a donnée à une question qui portait à peu près sur le même sujet. Tim Keller qui est décédé il y a deux jours, si vous le connaissez, vous avez peut-être appris son décès, après plusieurs dizaines d'années de service pour le Seigneur, il est décédé. Et je me suis rappelé de cette phrase, on lui avait demandé un jour, « Pourquoi pensez-vous que les chrétiens aujourd'hui ont des luttes difficiles avec Dieu en tant que réalité vivante et personnelle dans leur vie ? Pourquoi est-ce que les chrétiens ont de la peine à connaître la présence réelle et vivante de Dieu dans leur vie et à se à être fixé sur ses promesses, attaché à ses promesses. Et Tim Keller a répondu, le bruit et la distraction. Il est plus facile de tweeter que de prier. Il pensait surtout aux jeunes ici, mais je pense que ça s'applique pour chacun d'entre nous. Si nous luttons pour vivre en comptant sur Dieu et ses promesses, autrement dit, se pourrait-il que ce soit parce que nous ne passons pas de temps avec lui ? Se pourrait-il que nous soyons découragés par l'apparente absence de Dieu dans notre vie parce que nous sommes trop occupés pour le remarquer ? Quand, pour la dernière fois, vous êtes-vous arrêté ? Stop ! Arrêtez ! Pour prendre du temps dans la prière et à l'écoute de Dieu. Pour réfléchir à ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Ça, c'est la première chose qu'on a appelé à faire. S'arrêter. Ensuite, s'élever. Ésaïe dit à Akaz, regardez dans la suite, verset 4, « Ne te laisse pas intimider par la brûlante colère de Resin le Syrien et du fils de Remalia. Ce ne sont que deux bouts de tison fumant. » Vous savez ce que c'est des tisons fumants, les enfants ? Je vais laisser un moment pour réfléchir. Vous savez ce que c'est des tisons fumants ? Pas d'idée. Qui a une cheminée chez soi ici ? Ouais. Quand vous faites un feu, il reste des fois non, des bouts de bois qui sont presque complètement brûlés qui fume un tout petit peu. Vous les sortez du feu. C'est encore chaud, ça fume un petit peu, mais il ne reste plus grand-chose. C'est ça, un tison fumant. Okay. Et là, Ésaïe dit à Akaz, « Regarde, ces deux rois que tu crains, ce ne sont que deux bouts de tison fumant. Certes, les Syriens, ainsi que Péka et les troupes d'Éphraïm, ont des projets malveillants contre toi. Ils ont dit, en avant contre le royaume de Juda, faisons-lui peur, forçons-le à se joindre à nous et imposons-lui comme roi le fils de Tabéel. Mais écoutez bien, voici ce que le Seigneur déclare, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la capitale de la Syrie et Resin n'échappe qu'à Damas. D'ici 75 ans, il n'y aura plus de peuple d'Israël, car Samarie est la capitale d'Israël et le fils de Remalia n'échappe qu'à Samarie. » Que cherche à accomplir Ésaïe ici? Il veut aider Akaz à s'élever au-dessus des circonstances immédiates et à se rapprocher de Dieu pour voir d'en haut les choses qui se passent en bas sur la terre, d'une perspective divine. Qu'est-ce qu'il lui dit concrètement? Il lui dit, Akaz, réfléchis. Quelle est la capitale de la Syrie? Ce n'est que Damas. Et qui est chef à Damas? Ce n'est que Resin, ce n'est qu'un homme, un simple homme. Et il dit, réfléchis, quelle est la capitale d'Israël? Ce n'est que Samarie. Et qui est chef à Samarie? Ce n'est que Pékin, c'est juste un homme, c'est rien qu'un homme. Ce qu'Ésaïe cherche à accomplir ici, c'est d'aider Akaz à voir que les difficultés auxquelles il fait face et qui lui semblent insurmontables à lui, sont peu de choses aux yeux de Dieu. Pékin, Resin et toutes leurs armées te semblent invincibles, Akaz, mais aux yeux de Dieu, ce ne sont que deux bouts de tison fumant, deux mégots de cigarettes. Autrement dit, que Dieu peut écraser sous son pied s'il le veut. Et implicitement, Ésaïe suggère aussi à Akaz de réfléchir, quelle est la capitale de Juda? C'est Jérusalem, c'est la cité de Dieu, là où Dieu habite. Et qui est le chef à Jérusalem? C'est toi, Akaz, le descendant de David. Vous avez peut-être remarqué qu'à trois reprises, Akaz est présenté comme le descendant de David. Au verset 3, au verset 13, au verset 17, Akaz est spécifiquement identifié comme le descendant de ou de la maison de David. Toutes les promesses de Dieu pour le monde étaient liées à la lignée de David. Dieu avait promis à David qu'il aurait toujours, toujours un descendant sur le trône. Au lieu de t'inquiéter de Péka et Resin, qui ne sont que des hommes, lui dit en quelque sorte Ésaïe, rappelle-toi comment Dieu a été fidèle à ses promesses à David jusqu'à aujourd'hui. Comment peux-tu imaginer qu'il t'abandonne? Comment peux-tu imaginer qu'il abandonne sa ville, Jérusalem, et le peuple qui s'est choisi? Vous voyez comme Ésaïe aide Akaz à mettre les choses en perspective. Et c'est ce que nous devons faire, nous aussi. Selon Jean Calvin, qui commente sur ces versets, « Quand nos esprits sont agités d'incrédulité, quand les doutes sur les promesses de Dieu s'infiltrent, nous devons nous élever au-dessus de notre perspective humaine et nous rapprocher de Dieu afin de voir dans les choses qui se passent sur la terre et de ne pas juger selon la compréhension de sa propre chair, mais par la lumière du Saint-Esprit. » Donc, par exemple, quelqu'un qui serait accablé d'épreuves est peut-être tenté de penser « C'est trop, Seigneur, je ne suis plus capable de le supporter. » Mais il devrait alors s'arrêter et faire ce que Paul fait en Romains 8. Parce que Paul fait exactement ça, il s'élève en Romains 8. Il nous donne un exemple de ce que ça veut dire. Il dit en Romains 8, « J'estime en effet, et c'est le verbe logizomai, c'est-à-dire je calcule, je réfléchis, tout compte fait, il dit tout compte fait, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. » Bien sûr, Paul a eu beaucoup de souffrances pendant sa vie. Beaucoup de choses ont mal tourné pour lui. Il avait des problèmes physiques avec ses yeux. Il a été persécuté. Il était constamment sous pression, soucieux pour les églises qu'il avait implantées. Toutes sortes de problèmes. Mais il dit, je mets les choses en perspective. Mes souffrances sont grandes, tellement grandes, jusqu'à ce que je les compare à la gloire qui m'attend dans la présence de Dieu pour l'éternité. Autre exemple. Quelqu'un qui serait découragé par la petitesse de l'Église en Occident est peut-être tenté de penser « Mais l'Église n'a rien à dire aujourd'hui, n'a plus rien à dire, son message est dépassé, ce n'est plus qu'une question de temps qu'elle soit rayée de la carte. » Mais ils devraient alors se rappeler les mots de Paul, toujours, en acte 20, qui parle de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est le peuple de Dieu qui s'est choisi. Il a versé son propre sang pour elle. S'il a été fidèle à son Église et qu'elle subsiste après 2000 ans et qu'elle se retrouve et qu'elle s'étend sur les 5 continents, comment pourrions-nous imaginer que Dieu l'abandonne maintenant ? Vous voyez, ce sont juste des exemples, mais c'est ce que nous devons apprendre à faire, à nous arrêter, d'abord, mais à nous élever, ensuite, et enfin, nous accrocher. C'est ce qu'Ésaïe dit finalement à Akas de faire au verset 9. Il dit « Vous ne tiendrez ferme qu'en vous tenant au Seigneur. » Il y a un jeu de mots en hébreu ici sur le verbe « tenir ferme » qui est employé deux fois. Les traducteurs tentent de reproduire un peu le jeu de mots en français en disant dans certaines traductions « Si vous n'êtes pas ferme dans votre confiance, vous ne serez pas affermi dans votre défense. » Ou selon la Bible en français courant, vous ne pourrez tenir bon qu'en vous tenant au Seigneur. Accroche-toi, Akaz, lui dit Ésaïe en d'autres termes. Accroche-toi à la fidélité de Dieu. Et c'est ce que James Hudson Taylor a fait lorsqu'il passait par cette période sombre de sa vie, découragé, tenté de douter les promesses de Dieu. Il a lu Marc 11, 22. Ayez foi en Dieu. Et il dit que c'était comme si tout d'un coup il y a eu ce trait de lumière de l'esprit pour lui montrer que avoir foi en Dieu, c'est s'accrocher à la fidélité de Dieu. Accroche-toi. Autrement dit, et c'est ça que j'aimerais que vous reteniez ici, avoir foi ne consiste pas à regarder à l'intérieur de moi pour extraire de mon fort intérieur cette qualité innée qu'est la foi, mais qu'à l'inverse, ça consiste à regarder à l'extérieur de nous au Dieu qui est fidèle et à s'accrocher à lui. Et comprenez que s'accrocher à Dieu, ce n'est pas dire « Seigneur, je ne te comprends pas, mais je te fais confiance quand même ». Non, c'est dire « Seigneur, je ne te comprends pas, mais je sais pourquoi je te fais confiance. Même si je ne comprends pas, toi tu comprends, toi tu sais pourquoi, et ça me suffit. Je m'attends à toi. Je m'appuie sur toi. Je m'accroche à toi dans cette situation. » Voilà donc en quoi consiste la vie de la foi à laquelle Akaz et nous sommes appelés. Toute la question, bien sûr, arrivée au verset 9, c'est que va-t-il faire ? Akaz va-t-il faire confiance à Dieu ou chercher le secours ailleurs ? Et c'est mon troisième et dernier point. Après le défi de la foi, la vie de la foi, la crise de la foi, versets 10 à 17. Sentant bien que Akaz est pris de doute, qu'il hésite, Dieu lui fait une offre d'une extraordinaire générosité. Vous avez remarqué au verset 11, quelle est l'offre qu'il lui fait ? Il lui dit « Demande au Seigneur ton Dieu un signe de son appui, qu'il te le donne au fond du monde des morts ou là-haut dans les cieux. N'es-tu pas sûr de pouvoir te confier en moi, Akaz ?» lui dit le Seigneur. « Alors demande-moi un signe pour te rassurer n'importe quoi, n'importe lequel, et je te le donnerai. » Mais, verset 12, Akaz répondit « Non, je ne demanderai pas. Je ne veux pas mettre le Seigneur à l'épreuve. » La réponse apparemment pieuse d'Akaz n'est en fait que pure hypocrisie. Pourquoi ? Parce qu'Akaz n'aurait pas mis Dieu à l'épreuve s'il lui avait demandé un signe, puisque Dieu venait lui en offrir un. Mettre Dieu à l'épreuve consiste à exiger un signe en disant « Je ne te croirai que si tu fais ceci ou cela. » Ça, la Bible est très claire, c'est de l'incrédulité. Mais lorsque Dieu vous offre un signe, le refuser, c'est aussi de l'incrédulité. Akaz dit en réalité, je ne veux pas de signe parce que ma décision est prise. Et que si tu me donnais un signe, je n'aurais plus d'autre choix alors que de me confier en toi, et c'est exactement ce que je ne veux pas. Il apparaît donc qu'à ce stade, Akaz avait déjà décidé de faire appel à l'Assyrie pour lui venir au secours. Ce qu'il fera, comme on peut le lire en 2 Rois 16, plutôt que de compter sur le secours du Seigneur. Il ne veut pas de signe ici, parce qu'en réalité, il a déjà décidé dans son cœur de ne pas faire confiance à Dieu, mais à la Syrie. Et ça explique la réponse exaspérée d'Ésaïe au verset 13. Alors Ésaïe lui dit, Écoutez-moi, toi et ta famille, les descendants de David, on dirait que cela ne vous suffit pas d'épuiser la patience des gens et qu'il vous faut aussi épuiser la patience de mon Dieu. Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. T'en veux pas? Eh bien, il t'en donne un. La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. Ah non, ces versets sont parmi les plus célèbres du livre d'Ésaïe. C'est une célèbre promesse de Noël. Mais avant de passer trop rapidement au Nouveau Testament, nous devons voir ce que ce signe signifiait pour Akaz. Qu'est-ce que Akaz et ses contemporains étaient censés faire de ce signe de l'Emmanuel ? Comment devait-il le comprendre ? Pouvait-il même le comprendre à l'époque où n'est-ce que des centaines d'années plus tard, avec la naissance de Jésus, que ce signe fait sens ? Alors, c'est un fait que dans la Bible, les signes ne sont souvent compris que rétrospectivement. Par exemple, lorsque Dieu envoie Moïse libérer Israël d'Égypte, il lui donne un signe en disant « Pour te prouver que c'est bien moi qui t'envoie, je te donne ce signe. Quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble, vous me rendrez un culte sur le mont Sinaï. » En substance, Dieu dit donc à Moïse « Veux-tu un signe si bien moi qui t'envoie faire ça ? Quand tu l'auras fait, tu sauras. » Voilà le signe. Et souvent, les signes dans la Bible, nous ne les comprenons pleinement que bien plus tard, rétrospectivement. Et je pense que c'est le cas ici, en partie, il y avait quelque chose qu'Akaz pouvait comprendre, mais le Nouveau Testament nous dit que la signification de ce signe ne pouvait pleinement être appréciée que des centaines d'années plus tard. Mais demandons-nous d'abord, donc, qu'est-ce qu'Akaz pouvait comprendre ? Il y avait une partie qu'il pouvait comprendre. Qu'est-ce qu'il pouvait comprendre ? Eh bien, il apprend qu'une jeune femme... pas forcément une vierge, le terme dans l'hébreu ici, c'est une jeune femme, qu'une jeune femme tomberait enceinte et mettrait au monde un fils. Ce fils serait nourri de crème, de lait caillé et de miel, ce qui n'est pas très bon signe, ce n'est pas un bon présage, contrairement à ce qu'on peut imaginer peut-être, car ça laisse entendre que le pays de Juda sera dévasté. Il n'y aura plus de blé, il n'y aura plus de bétail dans les champs, tout ce qu'il restera, c'est du lait caillé et du miel sauvage à manger. Et avant même que ce garçon sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon, c'est-à-dire avant qu'il ait 2 ou 3 ans, on imagine, il est dit au verset 16, « Le territoire dont les deux rois te font si peur sera abandonné par ses habitants. » La Syrie et Israël seront dévastés. « Mais pour toi, Akaz, pour ton peuple et pour ta dynastie, le Seigneur fera venir un temps de malheur qu'on n'avait plus connu depuis le jour où le royaume d'Israël s'est séparé du royaume de Juda. » C'est une allusion à l'intervention du roi d'Assyrie. Un temps de malheur où l'Assyrie va venir dévaster. Le signe de l'Emmanuel est donc un message de jugement pour Akaz. Que l'Assyrie qu'Akaz avait appelé à l'aide ne se contenterait pas d'écraser Péka et Resin, ses ennemis, mais qu'il poursuivrait sur sa lancée et viendrait dévaster Juda aussi. Quelqu'un a dit que tout cet épisode ressemble à l'histoire d'une souris attaquée par 2 rats qui couinent pour appeler le chat à l'aide, ce que fait le chat, sauf que la souris finit en dessert. C'est exactement ça qui est décrit ici. La souris Akaz qui appelle le grand chat à la Syrie à son secours, il vient manger les 2 rats, Resin et Péka, mais il continue sur son passage et vient dévorer le royaume de Juda. Le signe de l'Emmanuel n'est donc pas une bonne nouvelle pour Akaz. Certes, Emmanuel signifie « Dieu avec nous », mais c'est frappant qu'au verset 11, Ésaïe dit à Akaz « Demande au Seigneur ton Dieu un signe », mais lorsqu'Akaz refuse, au verset 13, Ésaïe parle de « mon Dieu ». Tu as épuisé la puissance de mon Dieu, sous-entendu pas le tien, Akaz. Akaz n'a pas mis sa foi en Dieu, cette promesse n'est donc pas pour lui. Emmanuel signifie Dieu avec nous qui mettons notre foi en lui. Nous, le reste fidèle qui survivra, dit Ésaïe en fait. Tu as choisi le mauvais camp, Akaz. Et ainsi, le signe de l'Emmanuel est un message de jugement pour lui. Je n'ai toujours pas répondu à la question à 10 000 euros. Qui est ce garçon ? Eh bien, au chapitre suivant, nous apprenons qu'Ésaïe a eu un deuxième fils en plus de Cher Yachou, vous n'aimiez pas trop son prénom, hein, les enfants. Vous allez voir que le nom du deuxième, C'est pas mieux. Chapitre 8, verset 2, au verset 3, pardon, on apprend que Ésaïe a passé la nuit avec sa femme, elle devint enceinte et mit au monde un fils. Alors le Seigneur me donna cet ordre, donne-lui comme nom, écoutez bien, Maher Shal Hashbaz, ce qui signifie vite au butin, fonce au pillage, car avant même que l'enfant sache dire papa ou maman, on aura apporté au roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin pris à Samarie. À mon sens, c'est impossible de lire le début du chapitre 8 sans faire un lien avec le garçon qui vient d'être mentionné au chapitre 7. Le nom n'est certes pas le même, mais Maher Shal Hashbaz parle bien du jugement que le signe de l'Emmanuel représente pour Akaz. Donc je pense que c'est ça, quand Akaz a vu cet enfant naître, il a compris, 2 ou 3 ans, il me reste avant que le pays soit dévasté par la Syrie. Mais en même temps, il nous faut aller plus loin que ça, car Emmanuel ne parle pas que de jugement. Ce nom signifie Dieu avec nous. C'est un nom qui devait apporter de l'espoir pour ceux qui, comme Ésaïe, faisaient partie du reste fidèle de Juda. Il leur rappelait que Dieu ne les abandonnerait pas, non. Et plus nous avançons en Ésaïe, plus les promesses liées à ce fils deviennent extraordinaires. En Ésaïe 9, ce fils reçoit les titres de « Conseiller merveilleux », « Dieu puissant », « Père éternel », « Prince de la paix ». En Ésaïe 10, il est dit que l'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui et que son règne est un règne de paix sur toute la création, un règne éternel comme il avait été promis à son ancêtre David. Et lorsqu'on arrive au Nouveau Testament, tous les doutes qui subsisteraient encore sur l'identité de cet enfant sont dissipés une fois pour toutes. Il est Jésus, le Fils de Dieu venu vivre parmi nous. En fin de compte, oui, ce signe pointe vraiment vers Jésus, Dieu avec nous. Comme Matthieu nous dit concernant les événements qui entourent la naissance de Jésus, c'est la lecture qu'on fait souvent à Noël en Matthieu 1. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Mais c'est à double tranchant. J'espère vous avoir montré que cette promesse de l'Emmanuel est à double tranchant. Pour ceux qui se confient en Dieu, Emmanuel est un merveilleux réconfort et une assurance. Au milieu des difficultés et des doutes, dans les périodes sombres, comme celle décrite par Ésaïe ici, quand tout autour de nous nous pousse à douter des promesses de Dieu, cet enfant, Emmanuel, nous rassure. Nous pouvons faire confiance à Dieu. Il a été fidèle à ses promesses, car toutes ses promesses sont oui et amen en Jésus. Il est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il l'a accompli en envoyant son Fils. Le signe de l'Emmanuel signifie donc pour nous, tenez bon. Tenez ferme, accrochez-vous au Dieu qui est fidèle, car il est avec vous. Mais c'est à double tranchant, parce que oui, il y a un encouragement à croire, mais il y a aussi une mise en garde contre l'incrédulité. L'incrédulité d'Akaz, ici, on est mis en garde contre ça. Ce signe de l'Emmanuel confirme le jugement de Dieu sur ceux qui refusent de se confier en lui. Si Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous, lui tourner le dos est non seulement stupide, c'est dangereux, c'est choisir le mauvais camp, comme l'a fait Akaz. En qui donc te confies-tu? C'est la question que pose en fait toute la première partie du livre d'Ésaïe, mais aussi ce passage en particulier. Vas-tu te fier aux apparences ou croire Dieu sur parole? En qui donc te confies-tu ce matin dans ta vie? Et si tu passes par un temps de doute, il y a une chose qui peut t'encourager dans ce passage, particulièrement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme en Ésaïe 7, comme tout dépend du roi, en fait. Tout dépend du roi. Si le roi Akaz mettait sa confiance en Dieu, le peuple serait épargné. Mais si ce n'était pas le cas, les conséquences de son incrédulité s'abattraient sur tout son peuple. Peu importe, au final, la mesure de foi de chaque individu au sein du peuple, ce qui comptait, c'est ce que le roi ferait. Et avec Akaz, cela a été pour le malheur de son peuple. Et c'est pareil pour nous, sauf que notre roi s'appelle Jésus. Le Fils de Dieu venu dans le monde, il est vraiment Dieu avec nous. Il a partagé notre destin. Il connaît tout des difficultés et des doutes que nous pouvons rencontrer. Mais il a vécu par la foi dans son Père à chaque instant, en comptant chaque jour sur sa fidélité, même au pire moment, sur la croix. Lorsque toutes les apparences le poussaient à douter des promesses et de l'amour de son Père, il s'est accroché au Dieu qui est fidèle, en disant « Mon Dieu, mon Dieu ». Et c'est à lui que nous devons regarder alors ce matin, à notre roi. Parce que si nous regardons à la mesure de notre foi, en notre fort intérieur, nous ne pouvons qu'être découragés et tentés d'abandonner. Mais il a donné sa vie pour nous. Il a versé son propre sang. Soyons donc assurés, il gardera les siens. Dieu gardera un reste. Il nous gardera dans la foi. J'aimerais juste conclure en citant James Hudson Taylor. J'arrive au bout. Simplement pour revenir à ce que je disais au début, nous considérons parfois ces hommes comme lui, comme ces grands hommes de foi. Vous savez, ces géants de Dieu, forts, qui n'ont jamais vacillé ou lutté parfois pour croire dans les promesses de Dieu. Mais c'est tout le contraire qu'il nous dirait s'il était ici pour en parler. Ce jour de novembre 1875, quand Hudson Taylor, après cette longue période de doute et de difficultés, quand il a buté sur Marc 11, 22, où Jésus dit « Ayez foi en Dieu », voilà ce qu'il a écrit dans son journal. Je terminerai par là, écoutez. « Accrochez-vous au Dieu qui est fidèle. » Tel est, à notre avis, le sens de ces trois mots du Seigneur Jésus qui, dans notre version, sont traduits par « Ayez foi en Dieu ». Combien de chrétiens perdent la joie et le zèle dans la marche chrétienne parce qu'ils ne s'accrochent pas à la fidélité de Dieu? Combien évaluent les difficultés à la lumière de leurs propres ressources et ainsi tentent peu et souvent échouent dans le peu qu'ils tentent pour Dieu? Le manque de confiance en Dieu est à l'origine de presque tous nos péchés et de toutes nos faiblesses. Et comment y échapper, si ce n'est en regardant vers lui et en observant sa fidélité? De même que la lumière qui brille sur les eaux sombres d'un lac n'est que le reflet des rayons du soleil, de même la foi de l'homme n'est que le reflet de la fidélité de Dieu. Tous les géants de Dieu ont été des hommes faibles qui ont accompli de grandes choses pour Dieu parce qu'ils comptaient sur le fait que Dieu était avec eux. Que Dieu nous aide à compter sur la fidélité de Dieu, à compter sur le fait que Dieu est avec nous. Amen.